Bien, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être là ce soir pour la première conférence du cycle « Les inventions esthétiques de la photographie au XXe siècle ». Ce sont bien des inventions esthétiques et non pas des inventions techniques dont il est question. Alors, certaines connaissent déjà bien. On aura quatre conférences ce semestre. Elles sont toutes donc en partenariat avec le Master Littérature et Culture de l'Image, dont les étudiants sont là. Ces quatre conférences vont à chaque fois donc répondre à cette question qu'on a posée à des gens tout à fait différents les uns des autres, avec Héloïse Morel de l'Espace Mendès France, c'est-à-dire ce serait quoi pour vous une invention esthétique de la photographie ? Et donc cette question, on l'a posée à Héloïse Conesa, qu'Héloïse Morel va présenter bientôt. On a une recrudescence des Héloïses ce soir. On l'a posée à Hélène Giannichini, qui est une grande autrice sur l'écrivaine et photographe Alix Cléo Roubaud. Qui viendra le 20 février, si mes souvenirs sont bons. On l'a posé à Simon Djami, qui est un spécialiste de la photographie africaine, qui viendra répondre aussi à cette question. Et enfin, on l'a posé à Thomas Consani, qui est un tireur de photographie argentique au laboratoire Dupont à Paris. Donc, c'est la première cette fois. J'en profite d'ailleurs, il est moins une pour vous souhaiter une bonne année, selon l'usage. C'est la première ce soir et donc on est très heureux de commencer avec Héloïse Conesa.
Merci Anne-Cécile. Donc Anne-Cécile Guilbard, qui est maître de conférence en littérature et esthétique donc à l'Université de Poitiers, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, avec qui j'ai grand plaisir à coordonner ce cycle. Car c'est toujours de très belles rencontres sur un regard porté sur la photographie. Donc ce soir, Héloïse Conesa, qui est conservatrice du patrimoine, chargée de la collection de photographie contemporaine au département des estampes et de la photographie à la Bibliothèque nationale de France, va nous parler justement de l'acquisition, de la conservation et de la valorisation de la photographie contemporaine. Et avant de laisser la parole, je fais le lien avec une conférence que nous avons eue l'an dernier, qui a été donnée par Marion Perceval, qui travaille à la Fondation Jacques-Henri Lartigue. Et pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de l'écouter, elle parlait justement des albums de Lartigue, qui sont très nombreux, comment justement mettre en valeur, comment les conserver. Et si vous voulez, c'est la conférence, elle est en ligne sur le site de l'Espace Mendès France. Donc je laisse la parole à Héloïse Conesa pour sa présentation. Ensuite, nous aurons un temps d'échange avec vous. Et puis, bonne année aussi, je dis, parce que... On peut encore le dire.
D'accord. Alors, merci beaucoup à Héloïse Morel et Anne-Cécile Guilbard de m'avoir invitée ici à l'Espace Mendès France. Donc je suis très heureuse d'être devant vous. Alors par contre, je vais un peu botter en touche par rapport à la question de l'invention esthétique, puisque moi, c'est plutôt l'invention patrimoniale d'une certaine façon, puisque ce qui m'intéresse de dérouler avec vous ce soir, c'est justement l'histoire de la collection de photographie contemporaine de la Bibliothèque nationale de France et de fait l'institutionnalisation de la photographie dans les institutions culturelles françaises. Alors, réfléchir justement à la place de la photographie dans une collection institutionnelle, c'est d'abord s'interroger sur la reconnaissance tardive de cette forme d'expression qui a longtemps été marginalisée dans le champ artistique. En France, il a fallu attendre le début des années 70 pour que la photo, jusqu'alors dévaluée en tant qu'image reproductible relevant d'un art moyen, selon la formule de Bourdieu, soit intégrée dans les institutions muséales type Beaux-Arts. à cette époque, la photographie est devenue un objet de focalisation, à la fois dans l'art, qui trouve en elle de nouvelles voies créatives, que ce soit l'art conceptuel, le land art, les mixed media, dans les débats intellectuels, où elle mobilise les réflexions de Roland Barthes ou Susan Sontag, et enfin dans la culture, où elle bénéficie du souhait politique de valoriser des pratiques d'usage plus populaires, la mode, le design, la photo, et avec la création notamment des rencontres d'Arles en 1969. Dès lors, la photographie rencontre une meilleure visibilité en tant qu'œuvre autonome et se fait progressivement admettre dans les collections comme dans les expositions de musées. Néanmoins, l'identité floue du médium photographique conduit à une reconnaissance parfois chaotique que reflètent les discours institutionnels et les débats critiques qui agitent le milieu photographique, hésitant entre la valorisation artistique et ou la reconnaissance culturelle du médium. Alors, s'il y a un exemple à suivre pour les musées des beaux-arts à l'époque, et j'entends par là notamment le musée d'Orsay et le centre Pompidou qui vont être créés à la fin des années 70, c'est celui du MoMA de New York, seul musée pluridisciplinaire ayant constitué en son sein, dès les années 40, un département et une collection de photographies. Cela étant, si les collections du musée d'Orsay et du centre Pompidou ont été constituées ex nihilo à la fin des années 70, au début des années 80, il faut quand même compter à l'époque sur les archives photographiques, notamment celles de la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, dont Marion Parseval a dû vous parler bien évidemment, et puis les bibliothèques au sens large, bibliothèque des arts décoratifs, bibliothèque historique de la ville de Paris, et parmi ces bibliothèques pionnières, eh bien, la Bibliothèque nationale de France, sur l'histoire de laquelle je vais revenir. Alors, peut-être en préambule, rappeler quand même que la photographie, on la trouve plus particulièrement au département des estampes et de la photographie auquel j'appartiens, au sein de la BNF, mais que la photographie, justement en raison de son rôle d'image reproductible et documentaire, se retrouve dans à peu près tous les départements de la BNF, qui sont au nombre de 14, et plus particulièrement dans le département des manuscrits, notamment avec les fonds Montesquieu ou encore le fonds Julien Gracq, dans le département des cartes et plans, avec la société de géographie, dans le département des arts du spectacle, entre autres, pour ne citer que. Alors, la Bibliothèque nationale de France se déploie sur deux sites. Un site historique qui est celui de la bibliothèque dite Richelieu, qui est rue de Richelieu et rue Vivienne, donc qui forme un quadrilatère à l'heure actuelle en cours de rénovation, avec une réouverture normalement prévue, si tout va bien, fin 2021, début 2022. Et puis le site François Mitterrand qui à l'heure actuelle accueille depuis presque 8 ans maintenant l'ensemble des expositions de photographie organisées par le département des estampes. Alors, la collection du département des estampes, elle conserve à peu près 5 millions de photographies, 8 millions de phototypes, ceux de 1826 à aujourd'hui. Donc, tout support et tout registre confondus, c'est-à-dire de la documentation aux œuvres d'art, donc ce qui fait à peu près pour le contemporain, que la période contemporaine, c'est-à-dire à partir de 1970, on reste sur des bornes chronologiques un peu arbitraires, mais en tout cas, voilà, à partir de 1970, on considère que c'est la photo, on entre dans la photographie contemporaine, justement parce qu'il y a cette institutionnalisation, cette naissance du marché de la photographie sur la scène internationale. Donc 500 000 photographies et presque 5 000 auteurs. Je le rappelle, une des spécificités de la Bibliothèque nationale de France en ce qui concerne la photographie, c'est de conserver le fait photographique dans son entier, dans son ensemble. C'est-à-dire que par le biais du dépôt légal, un dispositif sur lequel je vais revenir dans un instant, on a recueilli un nombre incalculable d'images, mais qui peuvent aller de l'imagerie médicale à la photographie de reportage, de presse, en passant par la photographie de mode. Donc il n'y a pas que de la photographie d'art. Donc nous sommes 4 conservateurs, donc Sylvie Aubenas qui est conservatrice pour la photographie du 19e et la directrice du département, Flora Tribel conservatrice pour la photographie 19e, Dominique Versavel conservatrice pour la photographie moderne et moi-même, 2 bibliothécaires assistants, un contractuel, 2 techniciens d'art, des restaurateurs et un magasinier, ce qui fait à peu près 7-10 personnes pour s'occuper de 8 millions d'images. Autant vous dire que nous avons du travail. Le budget pour les acquisitions onéreuses, donc les achats, est à peu près de 200 000 euros en moyenne et autour de 60 000 et 80 000 euros pour le contemporain. La première, donc je vais revenir un peu l'histoire de la collection de la BNF très rapidement. Rappeler que la première entrée de photographie se fait par le biais du dépôt légal, qui est un dispositif imposé historiquement pour le livre, mais qui ensuite a été appliqué à l'estampe. Et en 1851, Blancard Évrard, qui était imprimeur pour les photographes, a déposé à la BNF. Le dépôt légal a une valeur, pour simplifier un peu les choses, a une valeur équivalente à celle d'un dépôt de brevet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une image qui rentre dans les collections de la BNF, vous pouvez en revendiquer son autorité, sa paternité. Et donc, cette obligation légale faite aux photographes à partir de 1943, mais avant, que les photographes avaient eux-mêmes intégré comme étant finalement dans la droite ligne du dépôt légal des images reproductibles comme l'estampe, a permis d'engranger un certain nombre d'œuvres. Entre-temps, il y a eu aussi des acquisitions et des dons, notamment de grandes collections d'amateurs de photographie, comme Georges Sirot ou comme Gabriel Cromer. Gabriel Cromer est un des grands visionnaires fin du 19e, début du 20e, pour la reconnaissance de la photographie. Il était le premier à avoir émis l'idée qu'il faudrait constituer un musée de la photographie. Donc une partie de son fonds se retrouve à la BNF et une autre partie au musée de Rochester, qui est un des grands musées pour la photographie aux États-Unis. Donc ces collections-là ont permis, effectivement, par don ou par acquisition, d'augmenter massivement le fonds. Mais la logique d'entrée des œuvres et acquisitions au 19e et jusque dans les premières années du 20e siècle a toujours été quand même plutôt documentaire. On regardait la photographie pour sa valeur informative. Donc, qu'est-ce qui était représenté? Et d'ailleurs, il faut attendre les débuts des années 60 pour qu'un regard esthétique soit posé sur ces images. Oui, on y est. Voilà. Pour qu'un regard esthétique soit posé sur ces images et que ce qui était jusqu'alors classé dans ce qu'on appelle des séries documentaires, donc thématiques, soit enfin extrait pour élaborer un classement par auteur, par photographe. Donc, cela explique aussi que cette logique documentaire, si elle a permis au tournant du siècle, par exemple, l'acquisition de milliers d'épreuves d'Adjé, a dédaigné à la même époque la production des photographes pictorialistes qui, eux, d'emblée se revendiquait comme artiste et tirait des œuvres à très peu d'exemplaires. Et cette photographie d'art a été longtemps méconsidérée par les conservateurs. Ensuite, dans l'entre-deux-guerres, il y a eu davantage d'expositions, des partenariats aussi avec des sociétés de photographie. Et la prise de conscience, elle se fait véritablement dans l'immédiate après-guerre avec des conservateurs comme Jean Adhémar qui arrive au département en 1932 et qui voyait dans la photographie le tournant de l'art qui instituait la modernité. Il y a eu ensuite une exposition petite mais quand même importante dans le sens où elle marque la patrimonialisation de la photographie à la BNF en 1946, des achats aussi par des conservateurs nommés, donc à partir de 1970 Bernard Marbot, puis depuis 1993 Sylvie Aubenas, pour les photographies anciennes du 19e avec des achats d'œuvres de Fox Talbot et autres. Il faut attendre 1968 pour que Jean Adhémar nomme Jean-Claude Lemagny, donc mon illustre prédécesseur, historien de la photographie, même si à l'époque il n'y avait pas d'enseignement de l'histoire de la photographie, hein, c'est arrivé très tardivement. Mais Jean-Claude Lemagny venait de la philosophie, il était fils de graveur et donc il ne s'est pas retrouvé par hasard créer cette collection de photographies contemporaines. En 1971, il a la préscience en fait d'ouvrir une galerie hors les murs à la BNF sur le modèle des galeries d'art où il expose des photographes parfois tout juste diplômés des Beaux-Arts. Et il rédige différents catalogues, participe à l'écriture de revues comme les Cahiers de la photographie, puis plus tard Études photographiques. Et donc en 2003, il obtient la création de cette galerie photographique, la galerie Mansart, sur le site de Richelieu et qui a vu passer de très belles expositions, parmi les dernières, celles consacrées à Joël Peter Witkin ou à Anders Petersen. Donc voilà à gros traits l'histoire dont je suis l'héritière et maintenant je vais vous montrer un certain nombre de photographies que nous conservons dans les collections. Il y a une petite scorie, donc ne pas tenir compte de la ferme du Garret de Raymond Depardon que nous verrons par la suite. Je vous l'ai mise quand même. Donc après Jean-Claude Lemagny, c'est Anne Birollo Lemagny qui lui a succédé et qui a aussi hérité de la façon dont Jean-Claude avait construit cette collection. Une collection de photographies qui plus est lorsqu'elle est contemporaine, elle est tributaire à la fois d'un regard sur le monde contemporain. Il faudrait définir le contemporain, mais Giorgio Agamben, philosophe, disait en 2006 dans son livre « Qu'est-ce que le contemporain ?», il expliquait que le contemporain, c'est certes prendre le pouls de la société dans laquelle on vit, mais c'est aussi et surtout accepter d'avoir un regard déphasé, voire anachronique aussi sur le monde. Et ça résume assez bien la vision du contemporain qu'a eu Jean-Claude Lemagny et qui a façonné l'histoire de la BNF. Donc, cette histoire du goût, elle est importante aussi, puisque on est en général à ce poste quand on est passionné de photographie, passionné d'image. Donc on travaille aussi avec notre subjectivité, mais il faut prendre en considération ce qui se passe, donc assurer une veille autant que faire se peut. Cela étant, aujourd'hui, l'offre et le nombre de photographes est exponentiel. Dans les années 70, c'était plus facile d'aller dans différents vernissages. Il y avait beaucoup moins de galeries. Hein. Agathe Gaillard, Michel Chaumette, Françoise Paviot. Voilà, on faisait pas rapidement le tour parce qu'il y avait toujours plein de choses à voir. Mais en tout cas, c'était plus aisé. Et aujourd'hui, voilà, c'est une offre pléthorique. Voilà. Donc, différents critères, des critères contextuels, des critères liés au goût personnel du conservateur, et puis des questions aussi de typologie, une typologie qui est celle de la technique. Donc, on conserve des tirages, on conserve des planches contact. On a conservé des négatifs, on en a quelques-uns, mais on n'est pas suffisamment équipé pour en recevoir encore aujourd'hui. Et on conserve aussi des négatifs sur plaque de verre. Et on ne conserve pas encore des fichiers numériques dématérialisés. Donc, données techniques, typologie aussi géographique et stylistique, sur laquelle je reviendrai. Donc, trois aires géographiques majeures sont à signaler en ce qui concerne l'identité de la collection de photographie contemporaine de la BNF. Donc la prégnance de la photographie française, nous sommes une institution nationale, donc on se doit de représenter le travail de photographes qui résident en France, alors français ou pas français, mais en tout cas dont le domaine d'activité principalement se fait en France. La photographie américaine est très importante puisque, en fait, un des premiers voyages que fait Jean-Claude Lemagny quand il a en charge la constitution de la collection de photographie contemporaine, c'est aux États-Unis. Il va à New York et il rencontre Diane Arbus. Pour l'anecdote, Diane Arbus et Jean-Claude Lemagny s'entendent très bien. Jean-Claude Lemagny écrit de très belles choses sur les images de Diane Arbus qui touchait, lui envoie par la poste une vingtaine de tirages. Donc c'est la première entrée de tirage de Diane Arbus dans les collections publiques françaises. Et pour nous, c'est un bien inestimable. Nous avons également Ralph Gibson ou Arno Minkinen. Voilà, c'est un échantillonnage que je vous propose des amuse-bouches d'une certaine façon, puisque ce que j'ai oublié de dire et qui est important de rappeler, c'est que pour les étudiants, pour les chercheurs et pour les photographes qui sont présents dans la salle, sachez que vous pouvez venir voir ces images. Nous sommes une bibliothèque, nous assurons les présidences de salle et nous vous accueillons pour que vous puissiez voir des tirages. C'est une relation privilégiée à l'œuvre que peu d'institutions permettent encore aujourd'hui. La photographie japonaise, donc là sans doute liée aussi à un tropisme de Jean-Claude pour le Japon et pour la philosophie zen. Donc Tsuchida, Moriyama, Shiraoka, mais aussi beaucoup d'autres. Nous avons en projet d'ailleurs avec ma collègue Dominique Versavel une exposition sur la photographie japonaise dans quelques années. Un échantillonnage aussi de la création photographique européenne. Ça me semble important aussi de valoriser cette production européenne. Donc avec des œuvres par exemple de Mario Giacomelli, Johann von Kuberta, Martin Parr, Gilbert Fastenakens. On a un très bel ensemble de photographies lituaniennes. Donc Massi Joscas, mais aussi Algimantas Kunchus et d'autres, qui est une école de photographie peu connue, donc voilà, si ça suscite quelques vocations chez les jeunes chercheurs. Et la photographie allemande avec, par exemple, Detlef Orlop. Alors, je vais m'arrêter peut-être un moment sur justement sur Orlop, puisque c'est un cas un peu significatif du regard que Jean-Claude Lemagny a porté sur la photographie européenne, la photographie allemande en particulier. Vous n'êtes pas sans savoir que la photographie allemande a d'une certaine façon été extrêmement représentée, notamment toute l'école de Düsseldorf, donc les héritiers de Bernd Theila Becher, de l'enseignement de Bernd Theila Becher, étaient extrêmement représentés sur le marché de l'art. Il se trouve que même si nous conservons un portfolio des Becher dans les collections, Jean-Claude Lemagny, finalement, a peu regardé les suiveurs, enfin l'école de Düsseldorf, à la base pour une question de contraintes liées au stockage des images. Après aussi sans doute par goût, mais aussi parce que parfois les contraintes techniques liées au stockage conditionnent aussi, façonnent la collection, notamment. Parce que nous sommes assez contraints en ce qui concerne les formats. Donc, on conserve 8 millions d'images sur le site de Richelieu. On est déjà dans des magasins pleins, comme vraiment très remplis. La rénovation va permettre d'avoir un peu d'extension, mais voilà, il faut continuer à préserver cela. Et ce sont des très grands formats. Vous voyez les Andreas Gursky, vous voyez les Thomas Struth. Donc, on avait cette contrainte qui était celle du format, puisqu'on prend rarement au-delà du 80%. Ce sont souvent des œuvres contre-collées. Or, les restaurateurs estiment, à raison, que le contre-collage est une hérésie pour la conservation. Donc, Donc, il se trouve que finalement, le regard de Jean-Claude Lemagny s'est plutôt porté sur l'école de Leipzig, sur l'école d'Essen et sur une école allemande finalement qui est juste en train d'être redécouverte. Il y a une exposition à Arles cet été de Sonia Voss et qui s'appuyait en partie aussi sur des recherches qu'elle avait pu faire à la BNF. Donc parfois, être à contre-courant, c'est le cas de le dire, notamment avec cette image de mer d'Orlop, a aussi du bon. C'est la question du déphasage, et en tout cas, pas d'anachronisme, mais de rester un peu aussi à côté, pas toujours, qui fait aussi la force de la collection de la BNF. On a aussi un échantillonnage de la création photographique mondiale, avec des auteurs mexicains, argentins, l'Afrique du Sud avec David Goldblatt, puisque David Goldblatt a été un des premiers la BNF a été une des premières institutions à faire rentrer des œuvres de David Goldblatt en France, l'Australien Robert Bessanco également. Et puis de nouveaux axes d'acquisition qui sont en cours en ce qui concerne la photographie contemporaine, notamment la photographie du Maghreb et la photographie des pays du Mékong, donc Cambodge, Laos. Ça nous semblait intéressant de développer cet axe d'acquisition pour une raison toute simple qui tient aussi à l'histoire de la France et aux liens avec les anciennes colonies, puisque beaucoup de photographes, je pense notamment par exemple au photographe cambodgien Razi que nous conservons dans les collections, qui a voyagé entre la France et le Cambodge avant de s'installer, réinstaller peu de temps avant sa mort définitivement au Cambodge. Il y a eu des passerelles et encore aujourd'hui, on pense notamment aux rencontres de Phnom Penh ou au photo festival d'Encore Photo qui sont tous deux dans la direction artistique a longtemps été faite par des Français qui ont invité aussi des photographes français à faire des workshops. Il y a eu tout un système d'échanges importants, donc ça nous semblait aussi intéressant de travailler cette question de l'échange et de regarder à la fois le regard de photographes français sur ces pays comme le Cambodge, mais aussi la Tunisie, l'Algérie, je vous montrerai plus tard le travail d'Anne-Marie Filaire, et puis le regard photographe comme Hicham Gardaf, par exemple, jeune photographe marocain, sur le Maroc et les évolutions liées à l'urbanisme de la ville de Casablanca. Autre point qu'on a, axe d'acquisition qu'on a développé, le Brésil, que je signale ici avec l'image du photographe Pedro Davin. Donc c'est arrivé un peu par hasard, c'est-à-dire que nous avions exposé Sebastián Salgado à la BNF. Il avait fait un don d'un certain nombre d'images. Il y avait eu quelques acquisitions au fur et à mesure par Jean-Claude Lemagny et Anne Birolo Lemagny. Mais il se trouve que on ne peut pas tout développer. Et puis, comme vous l'avez vu, le budget n'est pas non plus énorme. Donc, on ne pouvait pas acheter beaucoup de photographies brésiliennes. Et on a été contacté par une mécène qui est gérante de la société Métropole, qui nous a proposé de travailler avec un galeriste, Ricardo Fernandez. Ensemble, nous essayons d'élaborer, par le biais de ce mécénat, un plan d'acquisition qui aujourd'hui fait d'autant plus sens que la créativité et la création est très difficile au Brésil et que beaucoup de photographes brésiliens sont inquiets quant à la pérennisation de leur œuvre et donc on essaye aussi de pouvoir conserver leur tirage pour qu'ils passent à la postérité. Les axes thématiques forts de la collection, le portrait tout d'abord. Alors là, on est un peu sur les genres canoniques de l'histoire de l'art. Le portrait, qui avait fait l'objet d'une exposition en 2004, portrait-visage. Le paysage, on retrouve Raymond Depardon. De fait, nous conservons l'ensemble des archives de la mission photographique de la DATA, que nous avions exposé avec Raphaël Berthaud dans le cadre de l'exposition « Paysage français ». À côté du regard de jeunes photographes comme Geoffroy Mathieu sur les évolutions justement de ce paysage et une exposition qui faisait un peu le point sur presque 30 ans de regard photographique sur le paysage, à travers notamment la question des commandes. Ensuite, on en vient à des axes vraiment spécifiques de la BNF et dont Jean-Claude Lemagny donne un peu la clé dans le livre « La matière, l'ombre, la fiction », qui est un livre qui date de 1994 et qui s'appuie sur la collection de la BNF. La prééminence du noir et blanc dans nos collections, quand bien même il s'agit des expressions les plus contemporaines, est une donnée vraiment majeure, puisque on constate un attrait pour le noir et blanc, alors même que les photographes contemporains, dès les années 70, se sont emparés de la couleur et des tirages chromogènes. Il y a un peu de couleur dans les collections, il y en a toujours, mais proportionnellement, il se trouve que Jean-Claude Lemagny a beaucoup sacralisé cette question du noir et blanc et le rapport au temps aussi qu'il instillait. Donc la question de l'ombre qu'on retrouve dans le titre « La matière, l'ombre, la fiction » tient un peu à cette représentation du noir et blanc. Il se trouve que si vous voulez en savoir plus sur cette question, nous organisons avec mes collègues une vaste exposition, puisqu'il y aura plus de 350 pièces au Grand Palais en avril prochain, qui revient justement sur le noir et blanc comme esthétique de la photographie dans les collections de la BNF. Le noir et blanc peut être aussi le noir et blanc en couleur, donc le noir et blanc comme sujet, c'est le cas par exemple avec les monochromes, les polaroïdes monochromes de la photographe américaine Hélène Carré. Aujourd'hui, il y a un véritable revival de cette question du noir et blanc, notamment par l'attention portée au tirage. Alors Thomas Conzani, qui viendra, en parlera sans doute mieux que moi, mais le noir et blanc a cet attrait qu'il permet aux photographes de maîtriser l'ensemble de la chaîne de production de l'image, c'est-à-dire de la prise de vue jusqu'au tirage, puisque faire un tirage noir et blanc argentique ne demande pas un équipement énorme, alors même que faire de la photographie couleur, la plupart du temps, on le délègue à un tireur et à un laboratoire spécialisé, tellement cela demande de la complexité. Et donc, dans cette approche-là, aussi très matiériste, il y a quelque chose d'irréductible et propre au noir et blanc. La question de la matérialité, donc la fameuse matière, est quelque chose qu'on a beaucoup dans la collection. Une matière souvent abstraite aussi dans sa représentation, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est la matière de l'objet photographié au plus près. Donc, je pense notamment à Denis Breillat, qui, avec Jean-Claude Lemagny, a fait partie des fondateurs des Rencontres d'Arles. Et dont le sujet a été, certes, les matières organiques, minérales, les sables, les fleurs, les fruits, mais aussi la matière même du tirage, avec un certain nombre avec un travail absolument merveilleux sur la technique du virage, puisque l'image que vous voyez de la coupe de kiwi que vous voyez à l'écran est bien une image en noir et blanc, mais avec un virage au fer vanadium qui lui donne cette teinte verte. Cela aussi est rehaussé par une gravure photographique, donc une façon de faire mordre de l'acide sur l'émulsion photographique qui va donner aussi du relief à l'image. Donc la question de la matérialité est vraiment très, très importante et je prépare une exposition sur ce thème qui sera une sorte de traversée des collections sur cette question-là et notamment plus particulièrement la matérialité de l'image photographique, comment les photographes s'emparent du médium, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, de quelle matière photographique parle-t-on, les questions d'altération bien évidemment rentrent en considération, mais par exemple Laurent Millet dont j'ai pu voir d'ailleurs qu'il faisait, me semble-t-il, une des couvertures de la revue du Centre Mendès France. Il s'agit là d'un ambrotype, donc c'est-à-dire une réactivation d'un processus ancien de la photographie, un processus du 19e siècle, mais qui donne du volume à l'image et donc la fait rentrer aussi dans une troisième dimension. Et cette question matériste est aussi à l'œuvre ici. Les liens photographie-littérature, donc sorte d'évidence quand on est à la BNF, avec le travail de Michel Houellebecq, qui a été acquis au moment de Paysages français, puisque c'est un travail... on a fait l'acquisition du portfolio Before Landing, qui est un travail sur le paysage français et sur une sorte de... On retrouve le lien avec l'écriture de Houellebecq dans ses romans, c'est-à-dire une sorte de muséification de la France et des paysages français. Le travail aussi d'Annelise Broyer, sur lequel Hélène Gianecchini a beaucoup écrit, qui est venue travailler à Lise Broyer, à la BNF notamment, pour son travail Histoire de l'œil globe oculaire autour de Georges Bataille, qui fut conservateur à la BNF. Le travail d'Arnaud Lesage également, ce travail s'intitule Anatopée, donc parle bien évidemment d'un rapport du devenir finalement littéraire de l'image par des processus, des protocoles de présentation, d'agencement de l'image. Donc cette question narrative est, me semble-t-il, au cœur d'une véritable école française, et c'est pour ça que je crois qu'il est important aujourd'hui pour la photographie contemporaine de développer cette question au sein de la BNF. Parce que cette littérarité des images, on la trouve véritablement, elle inscrit une filiation avec des personnes comme Hervé Guibert ou Denis Roche, et une jeune génération comme celle d'Annise Broyer ou Nicolas Coman, Amaury Dacuna ou d'autres encore. Donc là, il y a une exposition aussi sur ce thème qui se prépare pour 2023. Alors, les divers modes d'enrichissement, pour vous montrer un peu ce qu'il en est. Donc, le dépôt légal, il concerne donc les producteurs d'images au premier chef, les photographes, mais aussi les imprimeurs et les éditeurs. Donc, je vais être honnête, le dépôt légal n'a pas la superbe qu'il avait à ses débuts. Et aujourd'hui, il faut admettre que peu de photographes font leur dépôt légal. Despatin et Gobly, ce duo de photographes que je montrais sur la question du portrait, par exemple, font tous les deux ans un dépôt d'une centaine de tirages, puisqu'ils l'ont, d'une certaine façon, inscrit dans leur carrière. Mais aujourd'hui, il est très difficile pour nous même si c'est une obligation légale, le ministère ne donne pas de moyens coercitifs, et on peut aussi comprendre que pour les photographes tirer pour la BNF, alors que c'est déjà difficile de tirer pour soi, n'est pas la priorité. Mais bon, voilà. Donc on a dans le dépôt légal aussi des photographies de publicité, comme le parfumeur Serge Huitens, et d'autres photographes comme Xavier Dauny, qui eux aussi, d'une certaine façon, ont intégré ce rituel de déposer à la BNF un certain nombre d'images. Quelques exemples d'acquisitions onéreuses dans la dernière décennie. Donc, le travail d'Anne-Marie Filaire, par exemple, sur les portes d'Alger, qui est un portfolio qu'elle a constitué après un travail de plusieurs années de recensement des portes, qui en dit beaucoup sur la situation de l'Algérie après la guerre. Et donc avec ces portes qui, on dirait, des portes de prison, mais qui sont simplement des portes d'immeubles, et qu'elle a photographiées. Le travail d'Éric Rondepierre, qui est à la lisière entre la question de la matérialité de l'image et cette dimension littéraire qui nous est chère. Le travail de Laurence Leblanc, qui a été au Cambodge et qui travaille, alors pas de manière exclusive, mais qui reste extrêmement attaché au noir et blanc tout de même, qui a été prix NIEPS en 2016, donc je vous verrai plus tard pourquoi le prix NIEPS compte autant pour la BNF, j'y reviendrai. Et puis le travail de Suzanne Meslas, nous avons fait l'acquisition du portfolio Print Street Girl. Cela nous semblait important d'avoir des œuvres de Suzanne Meslas, puisque nous avons un ensemble important de photographies américaines, mais finalement assez peu de photographes américaines. Et voilà, donc ça nous semblait aussi intéressant de l'acquérir. On a eu un certain nombre de donations, et nous en avons encore, hein, puisque sur cette question de l'argentique, aujourd'hui se pose de façon très aiguë la préservation et la pérennisation d'une œuvre. Et donc beaucoup de photographes qui ont travailler en argentique aujourd'hui se tournent vers la BNF pour préserver des tirages, pour préserver des planches contact. Donc là, on travaille quand même majoritairement par échantillonnage, c'est-à-dire que la question du choix et de la sélection faite de façon conjointe avec le photographe est importante. Donc on a eu par exemple le travail, la mission photographique de la DATAR, donc ça remonte un peu, c'était en 89, la donation de Mino Gormezzano, ce duo de photographes à la fin des années 90, Alix Cléo-Roubeau d'ailleurs, voilà, Hélène Giannichini a été très bonne intermédiaire auprès de Jacques Roubeau, et elle a été d'ailleurs commissaire avec Anne Birolo et Dominique Versavel de l'exposition qui avait été consacrée à cette femme de lettres et photographe en 2014 à la BNF. La donation de l'œuvre du photographe et peintre André Nagar. Ensuite, on a récupéré le fonds du Bar Floréal, un peu en catastrophe, puisque le Bar Floréal a fermé ses portes en 2015 suite à une liquidation judiciaire. Le Bar Floréal est le premier collectif de photographes constitués en France, très engagés, puisque voilà, ils ont été parmi les premiers à photographier la crise des banlieues, la fin de la sidérurgie et du monde minier aussi en France. Donc, on a fait d'ailleurs l'acquisition au moment de Paysage français, l'acquisition onéreuse cette fois, aussi en remerciement de ce don substantiel du fonds du Bar Floréal, de la vaste installation Retour en Lorraine. Également la donation de Jean-François Boret, donc faite par son épouse et Claude Boret à l'art il y a 3 ans maintenant, et puis la donation de Denis Bria, qui est une donation que nous avons instruite l'année dernière et qui a fait l'objet d'une exposition en galerie des donateurs, puisque nous avons un outil commun à l'ensemble des départements de la BNF, qui est cette galerie des donateurs, qui fait une centaine de mètres carrés et qui permet de présenter les donations des photographes, mais pas que, il y a aussi des donations de manuscrits. Donc voilà, c'est un outil qui est fort utile pour valoriser les donations importantes et d'une certaine façon, bien évidemment, remercier les donateurs. On a aussi des dons importants de photographes internationaux, donc l'Allemand Burkhard Jüttner qui nous a donné plus de 200 tirages, la photographe japonaise Kyoko Ushida qui nous a aussi donné un nombre substantiel d'œuvres. Thomas Rouff, alors là c'est un échange de bons procédés, puisque pour sa série négative, Thomas Rouff avait besoin d'avoir accès à vos images numérisées sur Gallica, donc qui est notre base image, et donc d'avoir accès au fichier brut de la numérisation d'œuvres du 19e, donc non sous droit, donc des natures mortes d'Henri Lesèque, des photographies d'Étienne Jules Marais, et en contrepartie de l'accès gracieux à ces photographies numérisées, il nous a fait le don d'une soixantaine de tirages de sa série négative, puisqu'il va sans dire que nous n'aurions pas pu les acquérir auprès de la galerie Gagosian. Voilà. Ensuite, nous avons les photographes de la Bourse du Talent. La Bourse du Talent est un prix dont nous sommes partenaires depuis une dizaine d'années. Grâce à Didier Defays, qui est commissaire de ce prix, et qui existe depuis beaucoup plus longtemps, hein, depuis 1998, la Bourse du Talent, grâce à ce prix, donc grâce à Didier Defays et également au soutien du laboratoire Picto, nous pouvons faire entrer un certain nombre de tirages de ces photographes que nous exposons tous les ans à Les Julien Quint. Alors, on va changer un peu le protocole de présentation, mais là, pour pour cette année à venir, mais puisqu'on veut faire un vaste temps des prix sur lequel je reviendrai, puisque la BNF est partenaire de nombreux prix photos, mais voilà, on reste attaché à la présentation de ces écritures contemporaines. Ce sont souvent des jeunes photographes, parfois moins jeunes, mais en tout cas dont l'écriture reste émergente, c'est-à-dire peu reconnu, et en tout cas peu diffusé par des canaux habituels d'exposition. Alors, vous allez vous demander sans doute à quoi ressemblent les magasins, les réserves de la BNF. Donc voilà un petit aperçu. Donc il y a plusieurs magasins. Il y a des magasins pour les grands formats, puisque bon, je vous ai dit, on a peu de grands formats, mais il y a toujours des exceptions à la règle, même ne serait-ce que pour certains tirages voilà, qu'on nous a donnés. Et donc quand on nous donne, on ne refuse quasiment jamais. Donc voilà, il faut aussi pouvoir accueillir les grands formats. Alors, vous voyez sur l'image du bas ce qu'on appelle des recueils, c'est-à-dire que pendant longtemps, et pour faciliter la communication en salle de lecture, les images étaient reliées dans ces livres qui facilitent la manipulation et donc la lecture de l'image. Aujourd'hui, on a arrêté de faire ces reliures parce que voilà, on a aussi, finalement c'est compliqué à manipuler aussi, donc on a maintenant des boîtes avec des pochettes et à l'intérieur desquelles sont les tirages bruts des photographes. Le dépôt légal, on en a parlé. Aujourd'hui est en cours d'instruction la question du dépôt légal numérique et de fait l'acquisition et le don de documents numériques natifs. Le département des estampes et de la photographie n'est pas un département pilote, contrairement au département des arts du spectacle. Il y a une raison à cela, c'est que pour nous et pour les photographes, et après en avoir discuté avec eux, la question du tirage reste crucial. Ce qui fait œuvre, la plupart du temps, c'est le tirage. Donc, si c'est pas, ça reste intéressant pour nous de conserver parfois les matrices numériques, donc les fichiers TIFF ou les fichiers RAW, parfois dans une logique de recherche, voir le travail de post-production qui a pu être fait. Mais voilà, pour nous, ça reste très voilà, très expérimental pour l'heure, et ça demande surtout un stockage incroyable et des milliers de téraoctets. Donc on n'a pour le moment pas l'infrastructure pour. La valorisation des collections de photographies, très rapidement. Donc j'ai évoqué Gallica, qui est la base de données images, le catalogue général. Puisque nous sommes en rénovation, nous communiquons pour le département des estampes et de la photographie dans cette merveilleuse salle Labroust que nous partageons avec nos collègues de la bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art, l'INHA. Donc la communication en salle de lecture se fait pour le fonds général du lundi au samedi de 10h à 18h, et pour les salles de la réserve qui concernent les documents les plus précieux, les mercredi et jeudi matin. Alors, pendant un certain temps, nous avons été sur le portail Arago, qui est un portail porté par le ministère de la Culture, qui est en cours de rénovation par le ministère. Donc c'est pour ça que vous n'y avez plus accès à l'heure actuelle. Mais en tout cas, une partie des collections de la BNF s'y trouve en complément du catalogue et de Gallica. L'organisation d'expositions et les expositions virtuelles font bien évidemment partie aussi des biais de valorisation de nos collections. Et puis, la BNF est la plus grosse institution prêteuse de France, et donc tout département confondu, bien évidemment. Mais donc, tout ça pour dire que la collection, on prête beaucoup au département des estampes. Donc là, je vous ai mis un petit florilège des expositions pour lesquelles on a été prêteur et partenaires, puisque c'est des prêts substantiels. C'est le cas notamment de l'exposition à la Fondation ICO à Madrid l'année dernière, où on a prêté un grand nombre de photographies de la Datar. Les publications, enfin. Voilà, on a une activité éditoriale avec la revue de la BNF et les catalogues d'exposition qui permettent de montrer aussi la photographie sous toutes ses formes. Et puis les partenariats, donc j'évoquais avec vous cette question des prix qui est essentielle pour nous. Un partenariat qui remonte à 1955 avec l'association Gens d'Image qui s'occupe de la mise en place du prix Niépce et du prix Nadar. Donc le prix Niépce qui est un peu le Goncourt de la photographie, donc qui consacre un photographe résident en France pour un travail d'une grande maturité esthétique et intellectuelle. Et puis le prix Nadar qui récompense un éditeur et le photographe qui l'édite. Donc le prix Niépce a été remis cette année au photographe Raphaël Dalla Porta et le prix Nadar aux éditions de M Edition, les éditions de Marie Sepcha et à la photographe japonaise Mio Kaijioka. Nous sommes également partenaires donc, de la Bourse du Talent, je vous l'ai dit, et puis cette année du prix du tirage photographique. Thomas Conzani fait partie des compétiteurs et avec le photographe Pierre-Élie de Pibrac, qui est un prix à l'initiative du Collège international de photographie du Grand Paris, dont nous sommes partenaires, qui est un prix doté par Florence et Damien Bachelot, qui sont collectionneurs, et qui récompense non plus un photographe, mais un duo, tireur et photographe, ce qui pour nous est vraiment essentiel dans la démarche de faire reconnaître la photographie comme étant un travail aussi de collaboration et la dimension matériste à laquelle nous sommes attachés et que j'évoquais précédemment joue ici à plein. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis là pour vos questions.
Merci beaucoup pour cette présentation globale et des collections et de la suite. Les expositions, en tout cas, là, ça donne un calendrier qui fait rêver. S'il y a des questions.
Bonjour.
Bonjour.
Bonsoir. Alors j'ai une question, c'est comment on organise une exposition à la BNF et comment on se dit qu'un sujet peut être pertinent à un moment donné?
Alors, vaste question. Alors, comme je vous l'ai dit, là on essaye, donc la BNF a une longue histoire d'exposition monographique d'importance, donc un seul auteur et de façon exhaustive on va présenter son travail. Depuis 5 ans, on essaye plutôt de faire des expositions collectives qui permettent d'aborder une thématique et de montrer aussi la richesse de nos collections. Donc c'est un carottage qui, dans les collections, qui est toujours difficile parce que partial et partiel. Voilà, je vous parlais de noir et blanc, mais voilà, cette exposition, ça a été un vrai bonheur de la faire, mais aussi un crève-cœur, et qu'on peut faire un volume 2, voire un volume 3 sans trop de difficultés. Avis aux amateurs, parce que voilà. Et, voilà, il faut partir toujours de la collection. Enfin, moi, je pense qu'on est là pour donner à voir ce que l'on conserve et qui appartient, puisque nous sommes une institution publique, à tout le monde. Et donc, de partir des forces de la collection. Une collection, elle existe parce qu'elle conserve et aussi, d'une certaine façon, parce qu'elle ne conserve pas. Ce qui compte, c'est l'identité. Ce qui fait que la collection de la BNF n'est pas celle du Centre Pompidou, ni celle du musée d'Orsay, ni celle du musée Niépce à Chalon-sur-Saône. Et ces spécificités-là font que le territoire français est riche de plusieurs écritures photographiques. Après, une exposition, c'est un travail aussi de très longue haleine. Donc, Donc, je vous parlais de photographie et littérature. C'est une idée qui a germé depuis 2 ans, qu'on va sans doute mener à bien en 2023. Voilà, noir et blanc, ça fait aussi 3 ans qu'on y travaille avec mes collègues. Donc il faut se donner du temps et rencontrer aussi les photographes, discuter avec eux du choix qui peut être le plus pertinent par rapport à un ensemble d'œuvres que l'on conserve. Voilà, à gros traits.
Bonsoir, merci beaucoup. Merci. Je voudrais simplement revenir sur la question de l'obsolescence que vous avez brièvement évoquée. Alors même si votre département n'est pas un département pilote pour toutes ces questions liées au numérique, est-ce que vous savez comment, par exemple, le département des arts du spectacle compte à court, moyen et long terme appréhender cette question cruciale de conservation sur support numérique.
J'ai pas été tout à fait complète sur ce sujet parce que c'est un sujet que je maîtrise partiellement. En fait, il se trouve que on a déjà le dépôt légal numérique qui est instauré pour le livre, pour plein de départements. Donc on dispose en fait d'un serveur qui s'appelle Spark, qui est dans les sous-sols de la BnF François Mitterrand, donc qui absorbe des millions de téraoctets. Mais nous, il fallait qu'on fasse un travail. On a un travail à faire auprès notamment des agences et des collectifs de photographes, parce que pour nous, ce qui nous semble important, c'est de récupérer, pour être vraiment efficace peut-être sur cette problématique, la réflexion qu'on a eue, c'est de se dire il faut qu'on récupère des fonds auprès d'agences. Pendant longtemps, on a l'agence France Presse, par exemple, a déposé des tirages à la BnF. Aujourd'hui, il dispose de son propre serveur pour la conservation des tirages dématérialisés. Donc là, pour le coup, l'expertise de la BnF en termes de conservation n'est peut-être pas très utile. En revanche, pour des agences plus petites ou des collectifs de photographes plus petits qui ont des sites internet, qui ont des bases de données, mais dont on ne sait jamais finalement de quoi demain sera fait, ça peut être intéressant qu'on leur propose de donner ces archives dématérialisées à la BnF, de les déposer pour qu'on en assure la pérennité. On pense souvent à tort que conserver une photographie dématérialisée, c'est pas compliqué. Il suffit d'une clé USB ou autre. En fait, ça demande beaucoup d'incrémentation au niveau des métadonnées. Donc là, il faut du personnel, il faut avoir aussi l'équipe d'informaticiens pour cela. Et donc ça implique aussi d'avoir une veille, pas simplement sur les différents formats d'images possibles, mais aussi sur les lecteurs de ces images. Parce que nous, si on conserve des images, c'est pour qu'elles soient valorisées, pour qu'elles soient montrées. Donc, il faut là encore qu'il y ait une veille sur les logiciels de diffusion, sur les ordinateurs ou les écrans sur lesquels on va les diffuser. Donc, c'est vraiment une question très complexe qui demande du temps. Et étant donné ce que j'expliquais, c'est-à-dire que pour les photographes, quand même, le tirage reste premier par rapport au fichier matriciel ou dématérialisé, on s'est dit qu'on se donnait encore quelques années. Je vous en prie.
Peut-être que vous avez répondu, mais je n'ai pas tout compris. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir accès à tout l'archivage photo par Internet ?
Alors, en grande partie pour la photographie 19e. En fait, les photographies qui sont sous droit, on a en fait donc la banque de données images Gallica que j'ai évoquée, qui est extramuros, sur laquelle vous avez un certain nombre de dossiers aussi qui sont très bien faits pour présenter une partie des collections du département. On a une base intramuros qui concerne les images sous droit pour lesquelles nous avons négocié auprès des photographes. Donc intramuros, ça veut dire consultable uniquement dans les emprises de la BnF, dans les salles de lecture. Mais pour être tout à fait honnête, la majeure partie de la collection de photographies contemporaines n'est pas numérisée et donc n'est pas accessible en ligne. Il faut encore se déplacer et voir les tirages. Voilà.
Merci, merci beaucoup. Je vous donnais parmi les critères de définition de la collection, en tout cas les critères d'acquisition, le goût du conservateur ou de la conservatrice. Vous avez parlé de ce que Jean-Claude Lemagny affectionnait et ce qui a permis en effet d'enrichir largement cette collection. Comment définiriez-vous le vôtre de goût
alors
aujourd'hui?
Bon, déjà, c'est difficile parce que un goût, il se forge au fil du temps. Donc moi, ça fait 5 ans que je suis conservatrice à la BNF. Je pense que voilà, les nouveaux axes d'acquisition que j'ai évoqués, notamment par rapport à l'intégration, alors je n'aime pas l'expression, mais voilà, de la photographie extra-occidentale, bon, qui est une, voilà, qui est vraiment absolument horrible, mais qui est très commode entre collègues parce que c'est quelque chose qu'on dont on parle, hein, c'est-à-dire la question de la représentation de la photographie dans le monde entier et plus exclusivement en Europe et aux États-Unis. Donc ça, Jean-Claude Lemagny l'avait déjà fait avec la photographie japonaise. Mais voilà, donc il y a cette question-là aussi d'avoir un regard, disons, plus mondialisé, mais quand même en restant dans une forme aussi de distance par rapport au marché, parce que le marché s'enflamme aussi régulièrement, par exemple pour la photographie, pour certaines photographies, où il faut essayer d'être à la fois à l'écoute et toujours se donner un peu de recul, donc partir toujours de l'identité d'une collection dont on hérite. Donc moi, je fais aussi avec cet héritage-là, en essayant de l'infléchir un peu. Et puis la photographie et la littérature, c'est quelque chose qui semblait évident en ce qui concerne la BNF, mais qui ne l'était pas tellement dans les collections. Et donc ça, c'est quelque chose que j'essaye de développer. Et le don Alix Cléoroubot l'a initié de façon assez merveilleuse. Donc voilà, on essaye de... Voilà, là, il y a une donation du travail de Denis Roche qui est en cours. Donc voilà, il y a tout ce travail-là qui doit être fait pour réinscrire la collection contemporaine de la BNF dans cette histoire qui, à mon sens, vraiment, cette dimension narrative de l'image est quelque chose qui détermine pour moi tout un pan de l'histoire de la photographie française.
Ouais, c'est merveilleux. Ce matin, avec les étudiants dans le séminaire de photolittérature, je leur racontais justement comment quelqu'un comme Michel Friseau, qui est quand même un pur historien de la photographie, arrive à la fin de... à la fin, j'espère pas à la fin, mais, mais en tout cas après tant de travaux d'histoire de la photo, à publier ce catalogue Toute photographie faite énigme, qui est ce par quoi les littéraires commencent à aborder la photographie. Donc il y a effectivement ce lien.
Et je pense que la dimension énigmatique, on a fait rentrer aussi récemment le portfolio avec le mot silence par dépôt légal, grâce à Guillaume Genest, tireur, de Denis Roche. Cette dimension, en fait, du silence, de l'énigme, pour moi, elle est très, très importante dans la photographie, parce que... une belle ou une bonne photographie, elle joue aussi dans le peut-être, c'est-à-dire dans ce qui reste à dire par rapport à l'image. Et c'est ça qui m'intéresse. Et moi, je pense qu'une des forces aussi de la collection de la BNF, c'est justement de ne pas se focaliser que sur la photographie d'auteur, même si on le fait de plus en plus parce que le dépôt légal est un peu moribond. Mais voilà, on peut regarder une photographie scientifique aussi et l'aborder avec divers critères.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
J'ai une autre question. Est-ce que la BNF a permis de découvrir photographe qui aujourd'hui compte dans l'histoire de la photographie?
J'ai évoqué Diane Arbus, par exemple. Je pense, en tout cas, la découvrir, je ne sais pas, mais en tout cas, la faire connaître au public français, oui, certainement, très certainement. Dans l'exposition que lui avait consacré le jeu de paume il y a quelques années, les commissaires de l'exposition avaient d'ailleurs mis les échanges de lettres entre Jean-Claude Lemagny et Diane Arbus pour montrer à quel point il y avait cette dimension pionnière. Après, je pense que Jean-Claude Lemagny, Anne Birollo et puis beaucoup d'autres aussi, hein, parce que je devrais citer également Philippe Arbaïzard, Anne Sensio, qui ont occupé aussi ce poste auparavant. Mais en tout cas, ces deux regards-là ont permis de faire émerger, de reconnaître tout de suite dans l'écriture de jeunes photographes quelque chose qui allait être déterminant. J'ai eu une discussion avec deux photographes, par exemple Valérie Belin et Patrick Tosani, qui m'ont dit la BNF, Jean-Claude Lemagny, on l'oublie un peu, mais ils ont été les premiers à nous exposer, en fait. Patrick Tosani, il était encore étudiant aux Beaux-Arts, que Jean-Claude Lemagny exposait déjà ses photos dans la galerie de Richelieu. Parce que, pareil pour un photographe international comme Martine Parr. Aujourd'hui, on connaît bien Martine Parr parce que c'est un photographe de la couleur. Jean-Claude Lemagny, il a saisi ce qui faisait la spécificité du regard de Martine Parr en faisant l'acquisition de ses premières photographies noir et blanc. Et donc, et cette question du noir et blanc, elle est aussi déterminante par rapport à ses œuvres de jeunesse. Pour répondre un peu à votre question.
Merci.
Est-ce que vous travaillez avec les galeries, quel est le lien, et justement avec les écoles d'art?
Alors oui, on travaille avec les galeries. On va voir les expositions quand on y arrive. Les galeristes savent aussi justement les orientations de nos collections. Donc, quand un artiste est susceptible de nous intéresser, on organise un rendez-vous. Moi, je rencontre à peu près une vingtaine de photographes par mois, 4-5 par semaine. Et donc, ça permet aussi d'assurer une veille sur ce qu'il se fait. On travaille avec les écoles. Moi, j'enseigne à l'école Louis Lumière. Donc, je trouve que c'est important. On a organisé au moment de Paris Photo cette année avec plusieurs écoles, donc Lumière, la Helbe à Bruxelles et l'Université Paris 8, une journée d'études, une demi-journée d'études sur la question de l'enseignement de la photographie et finalement l'enseignement de la photographie, quels sont les débouchés possibles. C'est-à-dire qu'on peut, après une école photo, être photographe, être photographe professionnel, artiste, et on peut aussi être commissaire d'exposition. Luce Lebar ou Clément Chéroux ont fait l'école d'art, Fanny Escoulen aussi, et ils sont devenus commissaires d'exposition. Donc c'était intéressant de voir ces débouchés-là et de travailler effectivement avec les écoles d'art sur ce sujet.
Très bien. Merci beaucoup pour votre conférence et puis les réponses. Merci. Et donc, le prochain rendez-vous, c'est le 20 février. Avec Hélène Giannichini. Donc.